RMC Intégral Sport, Martial Fernandez.
Il est 20h07 sur RMC, bienvenue si vous nous rejoignez, on est ensemble, une heure pour l'Intégral Sport, après ce sera l'after, hein, comme tous les jours cet été entre 21h et 23h, mais là tout de suite, c'est l'heure de débriefer cette 15e étape du Tour de France, de parler de ce Tour de France en général, et le 32-16 vous est ouvert si vous avez des questions à poser à Luc Leblanc et Thierry Bourguignon qui sont avec moi là ce soir, bonsoir messieurs.
Bonsoir Martial.
En cœur, c'est mignon.
En cœur, on est bien,
bien réglé. Alors je vais juste rappeler le classement de cette étape rapidement parce que il y a eu un beau sprint sous le soleil mais sur une chaussée un peu glissante quand même. Victoire du Norvégien Alexander Kristoff du côté de Nîmes, c'était la 15e étape entre Tallard et Nîmes, devant l'Australien Hössler, Sagan qui termine 3e, Greipel 4e, Brian Cocard 1er, Français 6e et puis pas mal pour Romain Feillu, 8e de ce sprint. Au classement général, pas de changement, les meilleurs étaient dans le premier peloton. On a déjà Guillaume, messieurs, qui nous a appelé au 32-16. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Guillaume.
C'est Guillaume.
Je vais juste faire une petite parenthèse. Je voudrais saluer plus particulièrement Lucho et Thierry Bourguignon.
Ah, ils sont là.
J'ai connu quand j'étais gamin au Critérium de Saran, qu'ils avaient gagné chaque fois qu'ils étaient venus, notamment Thierry en 2002 devant un certain Nicolas Vaugondi, de mémoire. Voilà, mon père faisait partie de l'organisation, donc chaque année j'étais présent. Et Lucho était venu quand il avait son maillot de champion du monde.
Ouais, et puis, je me souviens.
C'était pas en 2002, parce qu'en 2002 j'avais arrêté déjà. Donc ça doit être juste avant.
2001.
Non, 2000, je pense.
Ou 2000, c'était la dernière édition.
Ça remonte, hein, Thierry.
Eh oui. Mais on était jeunes, mon petit gars.
Alors, Guillaume, ta question.
Ma question, déjà, c'était, je sais pas si Vincent Lavenu est toujours là.
Non, il est plus là.
Bon, c'était pas grave. J'aurais voulu, d'après les experts, savoir si eux, leur avis, on aurait une coalition française sur le tour pour faire basculer Valverde hors du podium, déjà dans un premier temps. Pourquoi pas faire douter les Astana, malgré qu'ils sont très forts avec Nibali. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une alliance, justement, entre AG2R, FDJ et peut-être Europcar, qui sont encore un petit peu en second plan avec Pierre Roland, pour éjecter Valverde du podium et ainsi un coureur avec un passé sulfureux face au cyclisme propre français sur le podium.
Non, pas ça.
Bon, l'alliance déjà, sans ça.
Alors, l'alliance, deux circonstances. Hein, on l'a déjà dit les jours passés là, c'est simplement ils sont adversaires, il faut bien le dire, hein, Bardet et Pinot sont des adversaires, même si ils se respectent et c'est très bien, ils se connaissent bien et ils sont bien copains. Quand ils montent sur un vélo, c'est pour être le meilleur. Donc Bardet a envie d'être devant Pinot et Pinot a envie d'être devant Bardet. Maintenant, les circonstances de course vont faire peut-être que il y a un moment donné, ils vont se retrouver tous les deux à l'avant de la course et pour esseler les autres, ils vont participer tous les deux à faire le trou. Donc on va dire une alliance de circonstances. Voilà, c'est simplement. Mais une alliance dès le départ, non, c'est pas possible. Pour moi, non.
Luc.
Moi, je suis d'accord avec Thierry. L'alliance, elle se fera sur le terrain, sur la course. Après, ça dépendra des circonstances.
Il
n'y
a pas de nationalité là. Il y a un maillot, juste un sponsor. C'est pas l'équipe, le Tour de France par équipe.
Hein. Il n'y aura pas d'alliance entre les Français. Même, enfin, il peut y avoir une alliance entre les Français selon les circonstances de course, comme il peut y avoir des alliances aussi entre les Français puis quelques étrangers qui se retrouvent devant aussi. Hein. On peut penser à Van Garderen par rapport au fait que si Valverde se fait lâcher, que Van Garderen se retrouve avec Thibaut Pinot et puis Romain Bardet, là il peut y avoir une alliance entre les trois de circonstances.
D'ailleurs, on l'a un peu vu sur les sommets alpestres. On a vu Van Garderen qui aidait un peu Bardet et vice versa pour un peu écarter Valverde.
Mais après, voilà, après concernant le podium et tout, les alliances, elles vont vite, ça va vite. Ça va faire badaboum, hein. Après c'est chacun pour soi. Chacun pour soi. Donc oui, il peut y en avoir une comme ça, mais c'est quand tu es dans la course, le coureur il pense à quoi? Eh bien, il pense déjà à la victoire d'étape. Et puis après c'est vrai qu'il y a le général qui suit derrière. Et après bon. question Bardet. Bardet, il a le maillot blanc. De toute façon, il est en guéguerre avec Thibaut Pinot pour la prise du maillot blanc et puis en même temps pour le classement général. De toute façon, à partir du moment où tu es placé sur une étape de haute montagne devant le maillot blanc, ben, il risque de le garder. Et puis pour le classement général, il sera toujours devant Thibaut Pinot. Et puis inversement, si Thibaut Pinot arrive devant Bardet sur une étape de montagne, ben, automatiquement, il prendra le maillot blanc et se retrouvera devant lui au classement général. Donc voilà, il y a un double enjeu pour les deux jeunes coureurs français.
Merci Guillaume de nous avoir appelé au 32-16. On va prendre Jean maintenant qui nous a appelé aussi. Vous avez aussi le hashtag RMC Live d'ailleurs sur Twitter. Jean, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Jean.
Bonsoir Lucho.
Salut.
Bonsoir, salut, vous allez bien?
Oh ben oui, tout va bien.
Les anciens pros, ça va?
Oui, oh non, la rentrée depuis
anciens.
Longtemps.
Les anciens.
Oui. C'est les anciens pro qui comptent. Hein.
Thierry,
ah,
vous...
c'est vraiment ancien qui les fait un peu, qui les fait un peu mal.
Non, les anciens. Qu'est-ce que tu veux faire? On n'est pas des nouveaux. Hein.
Mais c'est comme ça, il faut vivre avec son époque, hein, son âge. Hein,
non,
monsieur, je te dis, moi.
Bien, ne vous inquiétez pas, parce que moi, je suis amateur.
Et puis faire le tour comme ça, on est beaucoup moins fatigué quand même. Hein.
Attends, c'est pas la même fatigue.
Ça dépend, Thierry. Je voudrais pas. On va pas aborder le sujet, ça dépend.
Oui, on n'aborde pas le sujet. Parce que les portes dans la tête, c'est sûr que ça fatigue.
Jean, ta question à Thierry Bourguignon et Luc Leblanc.
Alors, ma question à Thierry Bourguignon et Luc Leblanc concerne Peter Sagan. Parce qu'il y a un truc, enfin, c'est pas que je ne comprends pas, mais je me pose la question quand même, parce qu'auparavant, si je ne me trompe pas, c'était pas comme ça. Peter Sagan, il est maillot vert.
Oui.
Mais à mon insu, je pense que le maillot vert, c'est celui qui est le meilleur sprinter, qui au moins qui gagne une étape.
Donc oui. il peut être le meilleur sprinter parce qu'il y a des points tous les jours.
Il y a des sprints avec intermédiaires.
Les différents classements, plus un classement avec un sprint intermédiaire, toutes les étapes. Donc, et c'est le plus régulier.
C'est le plus régulier.
Ouais, mais c'est vrai que bon, le maillot vert sur les Champs, c'est toujours bien que le maillot vert arrivé sur les Champs-Élysées gagne une petite étape sur le Tour de France. Quand
mais
même.
Par le passé, il y a déjà eu.
On avait fait le reproche à Éric Zabel qui avait remporté à plusieurs reprises le maillot vert, mais qui à un moment donné n'avait jamais gagné d'étape.
Effectivement. Donc,
Kelly aussi, je crois qu'il y a une année où il n'a pas remporté une étape.
C'est la question que je me posais justement. Je me disais, voilà. Il n'a pas gagné d'étape du tout et il est maillot vert en plus avec
Ouais, mais parce qu'il habite, il arrive toujours bien classé. Il a fait 3 ou 4 places de 2, il fait je sais pas combien de places dans les 10, donc il marque des points à chaque fois. Plus les sprints intermédiaires dans l'étape, ça fait des points. Et puis
rebondir sur la question de Jean, Luc et Thierry, est-ce que Peter Sagan, il est frustré en ce moment de ne pas avoir gagné cette étape?
Pour un sprinter, la pire des choses, c'est toujours faire 2. Et 4 places de 2, ça doit être énorme pour lui.
Ça va être dur pour lui de gagner une étape. Mais non,
on
il
le voit
plus
sur
deux,
le podium du maillot vert, il éclate pas de rire. Hein. Il est un peu frustré, le gamin.
Il rit jaune, comme on dit.
Et oui. D'autant plus que c'est les sprinters, c'est des gagneurs. Hein, c'est
Rivers. Oui, pour moi, à mon avis, oui.
Merci Jean de nous avoir appelé en 32-7.
Monsieur Luc Leblanc, je me rappelle de vous du temps de la partie.
Ah oui, d'accord, ouais, 4 ans la politique. Ouais.
C'est vrai. Ouais.
C'est les dernières années de ma carrière, ouais.
Ah oui, c'est bien.
Merci beaucoup Jean de nous avoir
appelé. Merci Jean.
Bonne soirée.
Merci Jean.
Au revoir.
Allez, on a Marc maintenant qui est là. On va voir Marc La Pêche aussi. Marc, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Marc.
Bonsoir tous les jeunes anciens de la...
C'est mieux, c'est déjà mieux, tu vois, déjà j'ai sourire.
Les jeunes anciens pros. Ouais.
Les jeunes anciens que je salue et dont je reconnais un peu la qualité de cycliste. Moi qui roule, là, j'habite Grenoble, je roule dans les Alpes, enfin moi j'adore le vélo et
La Bastille, Grenoble.
70 ans Marc, hein, vous avez...
La Bastille, je l'ai jamais monté, mais je crois qu'il y a des gens qui s'en souviennent ici.
Oh là oui. Je m'en souviens bien, moi.
Non, j'avais une question. Tout à l'heure, j'écoutais Monsieur Lavenu, l'entraîneur d'AG2R, qui évoquait le problème de rivalité entre ces deux coureurs. Je me suis posé une petite réflexion en me disant, au départ du Tour, il n'était pas prévu que Fromm aille au tapis. Hein. Il n'était pas prévu que Contador aille au tapis non plus. Et si demain, après-demain, dans l'étape des Alpes, dans une chute banale, Nibali tombe, et qui se fracture le poignet et qui puisse plus continuer. J'aurais aimé savoir quelle hypothèse aurait évoqué Monsieur Lavenu entre ces deux coureurs.
Quel leader.
Ouais, il y a une petite rivalité. Alors je sais bien que il y en a un qui a 37 ans, l'autre 23 ans, mais là, à partir du moment où une victoire finale pouvait se jouer, la décision était pas si simple que ça. Hein.
Non, mais il a répondu à la question de toute façon, qui est que ce soit pour le podium ou pour la plus haute marche du podium, je pense que c'est la même chose. Il y a un moment donné dans les Pyrénées, de toute façon, je pense qu'il sera amené à prendre la décision. Parce qu'il y arrive un moment, il y en a un qui va prendre l'ascendant sur l'autre, ou alors ils peuvent se faire ou piéger tous les deux aussi. Et comme je dis, imaginons qu'ils se fassent piéger, qui va se sacrifier pour l'autre? Voilà. Il arrive un moment, à ce moment-là, ils seront obligés de prendre la décision.
Tu sais, à un moment donné, la guerre des égos, quand tu es placé au classement général, que tu peux, une fois dans ta carrière, peut-être la seule fois, monter sur le podium du Tour, tu te retrouves devant Bardet et puis Perrault se retrouve devant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Van Garderen attaque. Perrault réagit ou Bardet réagit? Ou ils réagissent tous les deux en même temps?
Mais non, mais ça va être la même chose. Regarde, Nibali. Nibali attaque Jean-Christophe.
Alors c'est au premier qui va réagir. Alors.
Ben bien sûr, ça va être comme ça.
Donc il y a une guerre des égos, il y a une guerre de psychologie qui va se jouer. Même si Vincent veut pas en entendre parler, automatiquement tu auras quand même dans leur tête, tu auras quand même ce petit truc qui leur fera dire tiens, si Van Garderen attaque ou si Nibali attaque, il faut que je sois le premier à réagir. Si l'autre réagit, je pourrais pas y aller et puis je risque de perdre le podium. Tu vois, eh oui, mais ça ils le diront jamais officiellement, mais
oui, non, mais voilà. Là je suis bien conscient, je suis d'accord sur ce que vous expliquez. La question que je vous ai posée, c'est dans le cas où Nibali tombe et n'étant plus là, une victoire dans le Tour de France, les égos à un certain moment, ça devient quand même un problème qui est d'une autre dimension, hein, les enfants.
Oui,
à partir du moment où Nibali tombe, ça veut dire qu'il y a un des deux AG2R qui risque d'être leader. Ou alors, si Valverde n'a pas eu de défaillance dans les Pyrénées, ça va être Valverde qui sera leader du Tour. Donc ça revient au même, ils sont toujours sur le podium. Et puis là, après, ou alors si Valverde saute et puis qu'il se retrouve, par exemple, premier Bardet au général et Perrault, c'est l'équipe. Ils n'ont pas attaqué. C'est l'équipe qui va rouler pour Bardet, pour Perrault, pour préserver donc le maillot jaune et la deuxième place. Après, la différence se fera sur le contre-la-montre Bergerac-Périgueux entre Bardet et Piperot.
Ben voilà. Mais ça fait la force aussi de l'équipe, hein. Ça fait la force de l'équipe d'avoir deux têtes comme ça et de se dire que de toute façon, il y a Bardet qui est un peu plus vif, un peu plus jeune, un peu plus grimpeur que Jean-Christophe, mais Jean-Christophe, c'est la roue de secours, entre parenthèses, qui est le spécialiste du chrono et qui peut prendre l'ascendant sur le chrono. Voilà.
Donc, mais à 37 ans, sérénité. Je pense qu'il a une chance unique.
Ben c'est l'année ou jamais. Podium, hein. C'est l'année ou jamais.
Une 18 entre les deux. Hein. Bardet, il a 1 minute 18 secondes d'avance.
Si ça reste comme ça, de toute façon, c'est Jean-Christophe qui prend l'ascendant.
Virtuellement devant,
sur 54 kilomètres, Jean-Christophe, je pense qu'il doit pouvoir...
Il a plus de puissance, il a plus de puissance, il a plus d'expérience dans les chronos aussi. Il sait mieux gérer un chrono peut-être que Romain.
Donc, merci Marc.
Écoutez, bonne continuation à tous.
Merci de nous avoir appelé au 32-16. Alexis est avec nous. Bonsoir Alexis.
Bonsoir à tous. Voilà, ma question, je vais un peu sortir du débat franco-français et revenir sur le maillot jaune de Vincenzo Nibali. J'ai lu ce matin dans l'équipe une interview du maillot jaune qui dit qu'il est un petit peu mal aimé par les médias français.
Ah bon?
En tout cas, qui se sent mal aimé. Alors j'aimerais avoir votre opinion.
Il écoute pas RMC.
J'aimerais avoir votre opinion, vous qui êtes tous les jours dans la caravane. Est-ce que vraiment Nibali, par rapport aux abandons de Fromm et Contador, c'est exact ce sentiment qui existerait?
Moi, je crois pas. Je crois qu'il est très respecté par les journalistes, quels que soient les médias, que ce soit français ou étranger. D'ailleurs, tous les commentaires qu'il y a eu sur Nibali ces derniers jours, c'est la domination de Nibali sur le Tour de France et que pour l'instant, il était inattaquable. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait de critique vis-à-vis de Nibali sur les journaux.
Non, mais il parlait notamment du fait qu'il est dans l'équipe de Vinokourov qui a eu passé un peu plus fureux.
Non, mais là-dessus aussi, ouais. Je crois qu'il faut arrêter là, ouais. Parce que c'est pas parce que il a un manager, un directeur d'équipe qui a eu un passé sulfureux à un moment donné aussi, hein. Il peut avoir fait une faute et puis après.
Alors on n'a qu'à dire, Vinot, il était aussi dans l'équipe de Vincent Lavenue à une époque. Voilà.
Non, mais même, on n'a pas, il a payé sa peine, voilà, il revient voilà. en tant que directeur sportif, et puis voilà, on passe à autre chose. Et sinon, on interdit, dans ces cas-là, on interdit aux gens suspendus une fois de revenir dans le vélo.
Tout à fait.
Et voilà, c'est tout.
Donc pour vous, ça fera un beau vainqueur du tour.
Mais bien sûr. Attendez, que de toute façon, alors bien sûr, il y aura toujours les gens qui diront, oui, mais s'il n'y avait pas eu les chutes de ci, de ça, mais on s'en fout. De toute façon, la chute, ça fait partie du métier, ça fait partie de la course. Lui aussi peut chuter encore. Il reste trois étapes dans les Pyrénées et qui sont dangereuses aussi pour tout le monde.
Dans l'interview d'aujourd'hui dans l'équipe, quand il répond à Brunet, il dit qu'il aurait bien aimé que Contador soit présent. Quoi.
Bien sûr, parce que
ça aurait valorisé son
maillot. Voilà, exactement.
Ouais. Tout à fait.
Et puis, ça aurait fait un grand, grand spectacle. Oui.
Très honnêtement. Je pense que Nibali doit se poser la question suivante, c'est mince, je vais peut-être gagner le tour, mais voilà, il y a l'effet Contador et Froome qui n'ont pas été là jusqu'au bout, et donc ma victoire sur le tour, elle est un petit peu, tu vois ce que je veux dire, elle est écorchée par elle est moins considérée voilà, que s'il y avait eu Froome et puis Contador, c'est clair.
Il y a le grand titre qui dit je n'ai rien volé à personne.
C'est clair. C'est vrai que quand on entend quelques commentaires sur le tour, dans les étapes alpestres, si Contador avait été là, il aurait peut-être pas gagné l'étape, machin truc. Bon, ben voilà.
Et si les Français
la confrontation n'a pas été là. Alors on ne sait pas si Contador aurait lâché Nibali.
Sur la première étape des pavés, c'est lui qui avait pris l'avantage. Hein.
Voilà, exactement. Il a pris l'initiative il a lancé la guerre sur les pavés. Et il a gagné cette guerre. Donc à partir de là, c'est tout.
Ça va.
Merci Alexis.
Quoi qu'il arrive, ça sera un beau vainqueur.
Merci Alexis de nous avoir appelé au 32-16. Si on a une petite question là sur le hashtag RMC Live pour parler de la première étape des Pyrénées, Carcassonne-Bagnères-de-Luchon, la plus longue du tour, c'est mardi. Oui. C'est Samir sur le hashtag RMC Live qui nous dit Nicolas Roche peut-il gagner à Luchon? Lui, il pense que oui. Nicolas Roche, il a les possibilités, il a plus de leader.
Il faut qu'il s'échappe de loin alors.
Mais bien sûr.
Il faut qu'il soit dans une grosse échappée,
vu qu'ils n'ont plus de leader, ils vont faire exactement comme Machka. Ils vont prendre l'opportunité d'un coup parce que avant le premier grimpeur, du moins le premier vrai grimpeur, parce qu'il y a deux petites bosses juste avant, il y a quand même 139 kilomètres de pratiquement plat. Donc
ça va faire mal aux jambes,
Il y a un coup qui va partir qui va être géré.
Tu vas passer 140 bornes pratiquement de plat, 53-11, et tu vas débrancher, tu vas mettre le 39-23, 21, enfin ça dépend la dureté de la pente. Mais bien sûr que Nicolas Roche est
capable de jouer la gagne sur une étape
En tout cas, moi je pense que ce jour-là, il y aura une échappée qui va aller au bout, parce que, je pense, très honnêtement, parce que t'as la grande descente après sur Bagnères-de-Luchon. Tu le crois pas toi Thierry?
Ouais, mais porte-bagnères.
Ouais, c'est pas facile, mais ils peuvent avoir un bon petit matelas parce que Nibali va pas courir après tous les lapins. Ouais. Hein,
le lendemain du jour de repos, il y aura des courageux.
Il peut y avoir une belle échappée avec au moins un petit quart d'heure d'avance.
Très bien. Déjà c'est repos demain. Thierry, Luc, merci d'avoir été avec nous ce soir et donc on se retrouve demain quand même.
Tant qu'à faire là, il y a 2-3 heures de route à faire maintenant. Alors je suppose que toute la caravane du Tour elle est sur la route. Je voudrais leur faire un petit coucou et les embrasser très fort parce que c'est pas simple ce qu'ils font tous les jours.
Et on leur dit que l'intégral tour aussi, c'est demain à partir de 17h en direct du côté de Carcassonne. Merci beaucoup Thierry et Luc et à demain.
Au revoir, Martial. Salut à tous.
À demain, 20h26 dans l'intégral sport. On est ensemble, nous, jusqu'à 21h et dans quelques instants, on parle football. On sera en direct avec le maire de Lens, Sylvain Robert, parce que vous le savez peut-être, Gervais Martel a annoncé ce soir que le club de Lens ne récupérerait pas les 10 millions d'euros promis par Hafiz Mamadov, l'actionnaire majoritaire du club, qui ne veut pas les donner, vexé par la décision de la DNCG. On en parle dans un instant avec Sylvain Robert, le maire de la ville de Lens.
RMC, 18h, 21h, Intégral Sport.